إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي ثعلبة الخشاني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. D'après Abi Tha'lab al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Il a établi des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, ne les commettez pas. Et il s'est tu au sujet de certaines choses, par miséricorde envers vous et non par oubli, alors ne les recherchez pas. » C'est un hadith bon, rapporté par Ad-Darqutni ainsi que d'autres. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit certaines choses, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire et commandé certaines choses. Il dit donc, certes Allah a prescrit des obligations, a rendu obligatoire certaines choses. À l'exemple des cinq prières, de la zakat obligatoire, le jeûne de mois de Ramadan, le pèlerinage, la bienfaisance envers les parents, le maintien des liens de parenté, ainsi que d'autres obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Il dit donc, certes Allah a prescrit des obligations, ne les négligez pas. C'est-à-dire, ne les négligez pas au point de les perdre ou de les abandonner. Soyez plutôt assidus dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit comme obligation. Il dit ensuite, il a établi des limites, ne les transgressez pas. Et les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les obligations et les interdictions. Les obligations, ce sont des limites qui ne doivent pas être dépassées. Quant aux interdictions, ce sont des limites desquelles tu ne dois même pas t'approcher. Comme on l'a vu dans le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, il a interdit des choses, ne les commettez pas. C'est-à-dire, ne faites pas les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. À l'exemple de la fornication, de la consommation d'alcool, la diffamation des musulmans, le mensonge et autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Ne les commettez pas. Et il s'est tu au sujet de certaines choses par miséricorde envers vous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas prononcé de jugement au sujet de certaines choses. Il ne les a pas interdites et il ne les a pas prescrites, ne les a pas rendues obligatoires. Et ceci par miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et non par oubli. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas oublié ces choses. Car comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Et ton Seigneur n'oublie rien. Cependant, il n'a pas prononcé de jugement au sujet de ces choses par miséricorde envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit au sujet de ces choses, alors ne les recherchez pas. C'est-à-dire, n'interrogez pas au sujet de ces choses sur lesquelles Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas prononcé de jugement. Donc après cette explication concise, on va mentionner quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'affirmation que l'ordre tout entier revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend des choses obligatoires. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend des choses interdites. L'ordre tout entier est entre sa main subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites. Il n'est permis à personne, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, de légiférer des choses dans sa religion. Certes, Allah a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Il a établi des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit des choses, ne les commettez pas. L'ordre tout entier revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la religion de l'islam, elle se divise en prescriptions, interdictions et permissions. Les prescriptions, ce sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir. Elles ne doivent pas être transgressées, elles ne doivent pas être délaissées. Quant aux interdictions, c'est les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Elles ne doivent pas être commises, et le musulman, il doit même s'en écarter. Quant aux permissions, ce sont les choses qu'il est permis pour le musulman de faire ou de délaisser, selon les intérêts et les situations. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation d'être assidu dans les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'y soumettre complètement. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a interdit de les négliger. On comprend donc qu'il est obligatoire d'y être assidu, de ne pas délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi des limites. C'est-à-dire qu'il a délimité clairement l'obligation et l'interdiction. Comme on l'a vu dans le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhuma. Certes, le licite est évident et l'illicite est évident. Et entre eux, il y a des choses qui prêtent à confusion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a délimité clairement les prescriptions et les interdictions dans la religion islamique. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, l'interdiction de transgresser les limites en ce qui concerne les obligations, cela signifie ne pas les outrepasser. Quant aux interdits, cela désigne le fait de ne même pas s'en approcher. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait qu'il est permis de caractériser Allah subhanahu wa ta'ala par as-sukut, le silence, c'est-à-dire le fait de se taire et de ne rien dire. Et ceci fait partie de sa perfection et de la perfection de ses attributs subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, et quand il veut, il ne parle pas subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est visé par le silence ici dans ce hadith, comme on l'a dit, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé de jugement au sujet de ces choses. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction d'enfreindre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit des choses, ne les commettez pas. N'enfreignez pas les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Écartez-vous-en et ne commettez pas ces choses. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que ce au sujet de quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu et n'a pas prononcé de jugement, ne l'a pas rendu obligatoire et ne l'a pas interdit, alors cela veut dire que ceci est une chose licite. Cependant, ceci concerne les choses ordinaires, les choses mondaines, et non pas les adorations. Car la base dans les adorations est l'interdiction. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à quiconque de légiférer une chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférée. C'est pour cela que celui qui instaure une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui instaure une croyance, une parole ou un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré. Alors celui-ci, il a commis un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant une chose interdite. Et on ne dit pas que ceci fait partie des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé de jugement. Car la base dans les adorations, c'est l'interdiction jusqu'à ce qu'une preuve vienne démontrer que celle-ci est légiférée. Quant à autre que les adorations, parmi les choses ordinaires, les choses mondaines, alors la base est la permission. Et ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé de jugement, alors cela signifie que ceci est permis. Et on peut donner un exemple pour clarifier cette question au sujet d'une chose sur laquelle beaucoup de personnes interrogent, et c'est le fait de retirer les poils des jambes et des avant-bras. Est-ce que ceci est permis ou interdit? La réponse est que les poils de l'être humain, ils se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qui est obligatoire de retirer. La deuxième, c'est ce qui est interdit de retirer. Et la troisième, c'est celle au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé de jugement. Quant à la première catégorie, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de retirer, alors ceci est connu, il y a le fait de retirer les poils des aisselles, du pubis concernant les hommes et les femmes, et le fait de retirer la moustache concernant les hommes. Donc tout ceci, il nous a été ordonné de le retirer. Cependant, la moustache, elle ne doit pas être retirée complètement. Elle ne doit pas être rasée, par exemple, comme l'ont expliqué les gens de science, rahimahumullah ta'ala. La deuxième catégorie, donc on a dit, c'est ce qu'il est interdit de retirer parmi les poils, comme la barbe concernant les hommes, ou encore les sourcils concernant les hommes et les femmes. Ceci, il n'est pas permis de les retirer. Il n'est permis à personne de raser sa barbe, ou même d'en diminuer quoi que ce soit. Pas même ce qui dépasse du point, selon l'avis prépondérant mentionné par les gens de science. Quant au fait que certains savants, rahimahumullah ta'ala, aient permis de couper ce qui dépasse d'un point, et qu'ils aient argumenté en cela par ce qu'a fait Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, alors ceci est une opinion qui s'oppose aux propos apparents du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus qu'il faut savoir que Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, il ne faisait pas ça tout au long de l'année. Il ne coupait pas ce qui dépassait de son point tout au long de l'année. Mais il ne faisait cela que lors du pèlerinage ou de la Umrah. En effet, il se peut qu'il considérait cela, radiyallahu ta'ala anhu, comme la perfection dans l'ordre de se raser la tête ou de se couper les cheveux lors de la désacralisation. Vous savez, lorsque la personne fait le pèlerinage ou la Umrah, elle se désacralise et parmi les rites à accomplir, il y a le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Donc Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, à ce moment-là, il coupait ce qui dépassait du point. C'est-à-dire qu'il empoignait sa barbe et coupait tout ce qui en dépassait. Il y a donc une différence entre cela et ce que font certaines personnes prétendant appliquer ce que faisait Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, et qui taillent leur barbe tout au long de l'année. Donc ceci s'oppose au texte apparent du hadith. Et l'avis d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est un avis qui n'est pas juste, mais ce qui est juste, c'est l'ordre de laisser pousser les barbes qu'a prononcé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième catégorie de poils, c'est ceux au sujet desquels il n'est venu ni ordre ni interdit. Certains ont dit qu'il est interdit d'y toucher car cela rentre dans la généralité de l'interdiction d'altérer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a classifié les choses en trois catégories. Et on a dit que ceci faisait partie des choses au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé de jugement. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que ce qu'il voit sur cette question, c'est que ces poils ne doivent pas être touchés. Ils ne doivent pas être rasés, ni coupés ou diminués. Il dit, sauf s'ils sont abondants, notamment concernant les femmes, et que cela l'enlaidit physiquement. Il dit, car la femme, il est nécessaire pour elle de s'embellir, donc dans ce cas, il n'y a pas de mal. Mais la base est de ne pas y toucher. Quant aux hommes, alors ils ne doivent pas y toucher, d'autant plus que ceci peut rentrer dans la ressemblance aux femmes qui nous a été interdite clairement dans la législation. Ceci était donc un exemple qui permet de clarifier la classification des choses mentionnées dans ce hadith. Neuvièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il ne convient pas de faire des recherches et d'interroger au sujet de ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas prononcé de jugement. Et les savants ont divergé au sujet de cette question. Est-ce que ceci est spécifique à l'époque du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceci est-il encore valide aujourd'hui? Certains ont dit que cela était spécifique à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car à cette époque la révélation descendait. Il se pouvait donc qu'un homme interroge au sujet d'une chose qui n'avait pas été interdite, puis qu'elle soit interdite suite à sa question. Ou alors qu'il interroge au sujet d'une chose qui n'est pas obligatoire, puis qu'elle soit rendue obligatoire suite à sa question. Comme il est venu dans le hadith dans lequel Al-Aqra ibn Habis, radiyallahu ta'ala anhu, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce dernier a dit, certes Allah vous a prescrit le pèlerinage. Alors Al-Aqra, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est levé et il a dit, ô messager d'Allah, est-ce chaque année? C'est-à-dire, est-ce que le pèlerinage est prescrit chaque année? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, si je réponds oui, ceci deviendra obligatoire et vous ne pourrez pas, n'en aurez pas les capacités. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage est obligatoire une fois, et ce qui est fait en plus de cela est surérogatoire. Donc on voit donc qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, interrogeaient au sujet de choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas prononcé de jugement, il se pouvait que ces choses deviennent suite à ce questionnement obligatoires ou interdites. Les savants donc dit, rahimahumullahu ta'ala, que ceci était spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'après cela, il n'y a pas de mal à ce que l'homme recherche à ce sujet. Ceci est donc le premier avis sur cette question. Le deuxième avis, et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala, dit que celui-ci est le plus juste, c'est que l'interdiction, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas permis d'exagérer dans les recherches ou dans le questionnement au sujet des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas prononcé de jugement. Sauf si l'objectif des recherches est pour la personne d'accroître sa science, comme le font les étudiants en sciences. Dans ce cas, il n'y a pas de mal. Mais si la personne n'est pas étudiante et ne fait pas des recherches scientifiques, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle questionne au sujet de ces choses sur lesquelles rien n'était prononcé. Et entre dans cette question le fait de poser de nombreuses questions au sujet des choses de l'invisible, au sujet du comment, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de choses qui sont improbables et qui ne peuvent pas se produire, comme certaines personnes qui posent des questions au sujet de choses qui n'existent pas et qui sont inimaginables. Ceci est inutile. Il ne convient pas de faire des recherches au sujet de ces questions. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux dans sa législation. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il s'est tué au sujet de certaines choses par miséricorde envers vous. » Et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala tout entière, elle est miséricorde envers ses serviteurs. Et ses récompenses, elles sont bien plus nombreuses et bien plus grandes que les œuvres qu'il nous demande d'accomplir. En effet, la bonne action, al-hasana, elle équivaut à combien ? Elle équivaut à 10 semblables à elle, jusqu'à 700 ou plus encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il décuple les récompenses de nos bonnes actions. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a allégé les choses à ses serviteurs en ne prononçant pas de jugement sur de nombreuses choses sans leur interdire ni leur rendre obligatoire. Et ceci fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'onzième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout oubli. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non par oubli. Et ceci est venu dans le Coran également. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au verset 64 de surat Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Ton Seigneur n'oublie rien. Et il dit au verset 52 de surat Taha, لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. Cependant, il se peut que certaines personnes disent, alors comment comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il a oublié ces personnes qui l'ont oublié. La réponse est que ce qui est visé dans ce verset par l'oubli, c'est le délaissement et l'abandon. C'est-à-dire que ces gens, ils ont oublié Allah dans le sens qu'ils ont délaissé Allah. Ils ont délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont accompli le shirk et les péchés de manière volontaire. Ils ont délaissé les obligations de manière volontaire, non pas par oubli. Donc ils ont oublié Allah, c'est-à-dire ils ont délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah les a oubliés. Alors Allah les a abandonnés. Donc le sens de l'oubli dans ce verset, c'est le délaissement et l'abandon. Quant à l'oubli qui consiste à ne plus se souvenir d'une chose qui était connue auparavant, alors il n'est pas possible de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par cela, car il en est exempt, subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik. على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.